Bonjour à tous, c'est le mug numéro 11, édition spéciale du vendredi. Nous sommes le 27 septembre 2019 et c'est parti. Bonjour à tous, j'ai démarré un petit peu tôt ma caméra, j'ai raté la fin du générique, hein, la force de l'habitude, ça va venir avec le temps. Bienvenue à tous dans ce mug numéro 11, édition spéciale du vendredi, qui a lieu donc sur la chaîne principale. Donc on accueille chaleureusement les gens qui n'ont pas l'habitude de nous regarder tout le long de la semaine et qui sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, donc c'est une émission un petit peu spéciale le vendredi, dans le Kawa, qui est notre rubrique réservée aux news, je vais faire un petit récap de la semaine, les articles les plus intéressants de la semaine, mais je vais parler aussi de l'actualité du vendredi, hein, parce que l'actualité ne s'arrête pas le vendredi. Nous aurons ensuite une rubrique entre 4 œufs où j'aurai un invité. Aujourd'hui, c'est Raphaël qui vient de chez Shadow Blade, la société qui fait le Shadow PC, et on aura un débat avec vous, la chatroom, en direct, hyper intéressant, sur le cloud gaming et l'écologie. Et oui, il y a des rapports, vous avez des questions, Raphaël aura des réponses. Et on terminera bien sûr ce mug numéro 11 par notre fameuse rubrique, les cornfacs. Aujourd'hui d'ailleurs, si vous avez des questions sur le Shadow PC, fourbissez vos armes, Raphaël sera là, vous pourrez l'inonder de questions, il n'y aura pas de problème et ça sera en fin d'émission. On démarre tout de suite avec le Kawa. Le Kawa, aujourd'hui, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? J'ai fait un extrait des articles les plus intéressants. Guillaume Hier vous parlait d'Amazon. Amazon qui a présenté une foule de nouveaux objets connectés. Je vais vous les montrer, hein, pendant qu'on les énumère rapidement. Il y avait, alors attendez, j'affiche, voilà. Il y avait les Echo Buds, c'est des écouteurs sans fil. Ça va concurrencer directement les AirPods. Ils ont en plus pour eux de la réduction de bruit, c'est signé Bose. Ça a l'air assez intéressant et le prix sera de $129 pour l'instant annoncé, en vente le 30 octobre, disponible en précommande. Les Echo Frame, ça sera des lunettes intelligentes. Ça n'affichera rien, a priori, dans les lunettes. C'est plutôt des écouteurs qu'on porte sur les oreilles. C'est un peu expérimental, à mon avis, parce que vous avez une lecture audio de 3 minutes, donc ça ira pas trop pour les gens qui portent des lunettes toute la journée. Ça sera en vente uniquement aux États-Unis pour l'instant, au prix de $180. Les Echo Loop, c'est une bague intelligente. Vous pourrez parler à votre bague. Ça y est, on est complètement dans le monde d'Inspecteur Gadget. Avec cette bague, vous pourrez parler à Alexa, donner des commandes. Pas encore disponible à la vente. Ils ont montré effectivement les concepts. Dans la gamme des haut-parleurs Echo, pas mal de nouveautés aussi. L'Echo Studio, le haut de gamme, qui sera disponible pour $199 en vente le 7 novembre, disponible en précommande. L'Echo Speaker, donc vous connaissiez l'ancien speaker d'Amazon, ça sera un petit modèle, mais avec une horloge en plus, ce qui peut servir pour l'heure, au prix de $99,99. Oui, on va dire $100, hein, parce que quand même, ce sera en vente le 16 octobre. Il y aura aussi l'Echo Dot. C'était l'Echo Dot avec l'horloge, pardon, je me suis gouré avec les visuels. J'avais que le visuel de l'Echo Speaker. L'Echo Dot, donc c'est celui-là que vous voyez, qui aura l'horloge et lui sera au prix de $59. Donc c'est la petite version de l'enceinte connectée. Il y aura aussi d'autres choses comme l'Echo Flex, qui sera un petit haut-parleur qu'on vous branche directement sur une prise de courant et qui permettra de passer des commandes à Alexa de n'importe quelle pièce de la maison. Ça sera au prix de $25, disponible le 14 novembre. Il y aura également, je vais faire vite hein, parce que c'est juste un récap, un écran connecté qui sera l'Echo Show 8 et un four intelligent. Si vous voulez en savoir plus, allez écouter le mug d'hier. Guillaume a parlé plus en détail de tous ces produits. On enchaîne hein, parce qu'il y a eu quand même pas mal de news la semaine dernière. En début de semaine, et on les salue au passage, le magnifique Z-Event ou Z-Event 2019. Les gamers ont pulvérisé tous les records en levant 3,5 millions d'euros de dons pour l'Institut Pasteur. Donc un grand bravo à toute l'équipe du Z Event 2019 et on les attend en 2020. Et ceux qui disent que c'est moins que le Téléthon, il faut quand même voir qu'il y a une grosse différence. Le Téléthon, c'est des promesses de dons. Alors que là, le Z-Event, ils ont vraiment levé pendant l'event 3,5 millions d'euros. Et ça a pulvérisé tous les records mondiaux de ce qu'une une opération caritative pouvait faire autour des gamers. Donc je pense que c'est même un tournant pour une génération. J'en dis pas plus, j'en dis pas moins. Début de semaine, ça a été aussi les Huawei Mate 30, Mate 30 Pro, qui ont l'air d'être des smartphones bardé de nouvelles technologies avec des capacités, en tout cas sur la fiche de spec, hallucinantes, mais avec un gros défaut, ils n'ont pas Google. Beaucoup de choses se sont passées cette semaine. J'ai fait un article en milieu de semaine, je crois. C'est relativement simple d'installer Google dessus, mais ça ne sera peut-être pas à la portée du grand public. Du coup, pour l'instant, Huawei a décidé que ça ne serait pas disponible en France, même si un entrefilet que j'ai lu ce matin parle quand même d'une disponibilité en France, je crois, vers la fin octobre. Donc, il sera peut-être disponible à la vente. Peut-être que les choses vont changer hein, par rapport à l'interdiction qu'ils ont de mettre les services Google dessus, et notamment Google Play. Encore une affaire à suivre, ça a été le feuilleton de l'été. Est-ce que ça va être encore le feuilleton de l'automne? Huawei va-t-il arriver un jour à récupérer Google? On en sera plus tard. Dans les news de cette semaine, ce qui était intéressant à suivre, ça a été le démantelage de l'iPhone 11 Pro Max par iFixit. On l'attendait tous pour une simple et bonne raison. Il n'y a pas de recharge inversée sur les iPhone 11 cette année, mais certains disent que la technologie est en place. En fait, la technologie n'est pas très compliquée puisque la recharge sans fil peut très facilement s'inverser. Il faut quand même quelques pièces pour pouvoir contrôler ça. A priori, il y aurait un câble mystérieux, mais iFixit n'a pas réussi à donner une indication claire. Est-ce que le hardware pour la recharge inversée est disponible? Et ce qu'on ne sait pas, est-ce que Apple a annulé cette recharge inversée parce qu'il n'était pas content des résultats, que ça rechargeait trop lentement une Apple Watch ou ce genre de choses? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent peaufiner et ensuite le débloquer avec le software? On en saura plus ou on n'en saura rien du tout. Façon Apple, quand ils ont décidé de ne pas dire ou de ne pas faire quelque chose, ils ne le font pas. Voilà. Également, dans les grosses news de ce début de semaine, il y avait l'ordinateur quantique. Effectivement, la prouesse de Google d'avoir... mince, comment ça s'appelait? Attendez, j'ouvre mon article qui ne veut pas s'ouvrir. Il y avait une histoire de suprématie, c'est ça que j'ai oublié comme mot. Bref, la suprématie quantique. Une équipe de Google et de la NASA serait arrivée effectivement à la suprématie quantique, qui est en fait tout simplement la preuve qu'un ordinateur quantique peut être plus rapide qu'un PC classique. Et justement, les chercheurs de la firme ont prétendu dans une publication avoir accompli avec un processeur quantique une opération en 3 minutes et 20 secondes, là où il faudrait... accrochez-vous, 10 000 ans pour les ordinateurs classiques les plus poussés. Est-ce que Shadow aurait fait mieux? C'est une question qu'on posera à Raphaël tout à l'heure. Là où il y a un gros mystère autour de ça, c'est que la revendication n'est restée en ligne que quelques minutes. Est-ce qu'ils se sont un peu emballés? Est-ce que, en fait, ils avaient appuyé sur la mauvaise touche? Pour l'instant, c'est un petit peu mystérieux cette histoire. Dans les grosses news de cette semaine, il y avait également Google Play qui va faire comme Apple Arcade et qui a annoncé un Google Play Pass avec 350 jeux Android. Mais à la grande différence de Apple Arcade, il y aura également des applications classiques. Tout ça pour 5 $. C'est pas encore disponible en France, c'est disponible aux États-Unis. Ça viendra sur le reste du monde. Réponse du berger à la bergère. Dans les jeux, aussi, Guillaume vous en parlait hier, le Mario Kart Tour, qui est disponible depuis hier, un lancement assez controversé pour plusieurs raisons. Le choix d'un gameplay, le véhicule est uniquement pilotable au doigt. Le jeu n'est jouable qu'en vertical, donc on s'éloigne, on va dire, d'un Mario Kart traditionnel. Mais surtout, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est leur modèle freemium à 5 euros, je crois, ce qui est quand même extrêmement cher pour débloquer tout un tas de choses, extrêmement cher quand on sait qu'à côté, il y a par exemple Apple Arcade ou Google Play Pass qui, pour le même prix, vous offre une foultitude de jeux. Donc, est-ce que Nintendo s'est pris un peu les pieds dans le tapis avec ce lancement? A priori, ils ont fait des bons chiffres au lancement. Le plus important, c'est est-ce que les gens vont y jouer encore dans un mois? C'est surtout ça, le chiffre intéressant qui sera à suivre. Et je termine ce récap des news de la semaine, toujours en rebondissant sur un article de Guillaume d'hier sur Google qui avait donné un petit peu son astuce pour contourner les lois françaises sur le droit voisin. Hein, le droit voisin, ça concerne la presse en ligne et le droit qu'aurait Google de prendre des extraits d'articles. Google a trouvé une astuce, une faille dans la loi du droit voisin. Et concrètement, Google a dit, écoutez, nous, on va continuer à référencer les articles de presse en affichant le titre et le lien pour accéder. Mais la courte description, la vignette ou tout autre élément seront à la discrétion de celui qui publie. En gros, si vous voulez que Google vous relaie, vous en faites la demande auprès du moteur de recherche à la condition expresse de donner son accord pour que la firme de Mountain View puisse s'en servir gratuitement. Donc, on ne peut pas s'empêcher de dire que c'est malin de la part de Google d'avoir fait ça, ça paraît faire, mais, et c'est le rebond d'aujourd'hui, la classe politique française est furieuse. Ça donne un petit peu l'impression qu'ils ont mis au point une loi où il y avait un gros trou et qu'ils sont un petit peu furieux que Google se soit mis dans ce trou. Moi, c'est un petit peu la réaction que j'ai. Effectivement, c'était un petit peu prévisible quand même que Google allait chercher une faille. Mais du coup, effectivement, les déclarations notamment du ministre de la Culture trouve que les déclarations de Google sur la question de la rémunération ne sont pas admissibles. Il reproche à Google de définir unilatéralement les règles du jeu. Là où tout le monde n'est pas d'accord, c'est par exemple une ex-députée allemande, Julia Reda, très hostile à la directive sur le droit d'auteur, qui a fait un tweet hier qui m'a fait sourire, où elle dit « La presse, 2 points, n'affichez pas nos articles tant que les résultats de recherche, dans les résultats de recherche pour rien. » Réponse de Google, vous pouvez contrôler tout ça dans les réglages. Le législateur, passons une loi pour aider la presse. La presse, 2 points, maintenant vous ne pouvez pas montrer nos articles gratuitement. Google dit « Ok, nous allons plus les montrer. » Et là, le législateur qui dit « Ah, mais c'est de la censure !» Bref, ça montre un peu l'absurdité de cette situation. Une croyance que Google allait souscrire à une loi qui risque de lui coûter très très cher sans chercher des moyens de contourner le système. Et il ne faut pas oublier quand même que Google a encore un grand bâton qu'il a déjà agité en Espagne, par exemple. S'il ne veut pas payer, il ne publiera plus les articles de presse. Et d'un côté, la presse pourra dire « Oh, Google ne me vole plus mes articles ». Mais en même temps, ils auront peut-être un problème, c'est qu'on ne lira plus les articles. Donc c'est un problème assez complexe. Je pense qu'on en reparlera, la situation va évoluer. C'est tout ce que vous deviez savoir cette semaine sur les news. On va passer, j'ai mis quand même quelques news fraîches d'aujourd'hui, parce qu'il s'est passé des choses quand même. Une petite news, mais qui va faire très plaisir à certains d'entre vous. Je sais que certains d'entre vous font beaucoup de musique, de la musique assistée par ordinateur, et notamment avec l'iPad. Dans les vidéos que j'ai fait sur l'iPad, beaucoup m'ont dit « c'est dommage que tu n'aies pas parlé de la musique, parce que nous, on fait beaucoup de choses ». Eh bien, une bonne nouvelle, c'est que GarageBand va maintenant gérer les clés USB. On sait qu'avec iPad OS, l'iPad nativement maintenant gère les périphériques de stockage externes, mais maintenant il faut que les applications reconnaissent ces périphériques, et bien ça va être le cas de GarageBand. Donc bonne nouvelle. Dans les news un petit peu plus étoffées, c'était la présentation hier du OnePlus 7T, sérieusement fourni comme, excusez-moi, j'ai J'ai beaucoup d'Apple Watch sur mon bureau, donc j'en ai qui sonnent de temps en temps, puisque je suis en train de vous faire une vidéo sur les Apple Watch. Comme ça, vous savez tout. Je reviens sur le OnePlus 7T. Il a été lancé. Il est quand même bien costaud. Il y a des choses très intéressantes dedans. Snapdragon 855+, 8 Go de RAM, 128, 256 en stockage interne. Vous pourrez pas étendre la mémoire, par contre. Il a un ratio assez unique puisque c'est du 29, donc plus grand que du 16/9 ou du 18/9. Un écran FHD+, avec une résolution de 2400 par 1080 pixels et surtout un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Moi, pour avoir testé le modèle Pro l'année dernière qui avait déjà ce taux de rafraîchissement, c'est hyper confortable. Je vois un super chat qui passe. Merci beaucoup, Alexis, pour ton super chat. Et qui apporte vraiment un vrai confort. Hein. Les 90 Hz, c'est pas... Moi, c'est un regret que j'ai eu sur les iPhones, c'est qu'ils n'aillent pas dans ces taux de rafraîchissement parce que ça ajoute vraiment un confort. Au niveau caméra, le 7T sera mieux équipé que le OnePlus 7, avec notamment dans les caméras de dos, parce que c'est le plus important, 48 mégapixels, 12 mégapixels x2 et un... Et surtout, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, parce que j'ai vu certaines petites choses, un objectif macro, mais qui va être de la vraie macro. Alors, comme on est un peu passionné de photos, ça nous intéresse. Ils ont mis dedans un tout petit moteur, mais vraiment tout petit, qui, si j'ai bien compris, va reculer le capteur, faire un peu comme une bague à longe qu'on met sur un appareil photo traditionnel pour faire de la photo macro. Donc, ça ne va pas être de la fausse macro dans le sens où, comme on a déjà eu, qui est bien aussi, hein, qui était une macro où on avait une distance de mise au point qui était très faible. Là, ça va vraiment basculer dans un mode macro. Donc, ça va être très intéressant de tester ça. Oui, il est plus que fort probable que nous testions le OnePlus 7T sur la chaîne. Pas tout de suite, tout de suite, mais on va le tester. De la vraie macro. Ouais. Enfin, de la vraie. C'est pas un objectif macro, mais avec un recul du capteur, on aura de la macro à la bague à longe. En gros, ça revient à ça. Le son est un peu faiblard. Ah, j'ai pas fait de check son, et c'est vrai que j'ai baissé un peu le gain hier. Je vais vous mettre un petit peu plus de gain, et vous me direz si ça va. Désolé, comme j'avais beaucoup de news, j'ai pas trop regardé la chatroom pour l'instant. Est-ce que ça va mieux là au niveau du son? On fait une petite pause pour checker le son. Super, merci, impeccable. Je fais attention à pas crêter dans les rouges, donc le son va bien. Nickel. Allez, on continue parce qu'on a encore des petites news. Vous avez peut-être vu passer une news sur l'Alt Store sur iPhone. Une App Store alternative sans jailbreak sur iOS. Comment est-ce possible? On sait qu'Apple laisse pas trop faire ce genre de truc. C'est une astuce, en fait. Et il a utilisé la possibilité de charger sur les iPhones des applications de test en les combinant aux fonctionnalités offertes aux entreprises, associations et projets. Donc, en gros, vous le savez, quand vous êtes une entreprise ou que vous êtes un bêta-testeur d'applications iOS, il y a une manière d'installer des apps sans passer par l'App Store officiel. Et c'est en utilisant finalement ces mécanismes qu'il a pu faire un Alt Store alternatif. Est-ce que c'est légal? C'est très très shady. Est-ce qu'il va tomber dans le bain d'acide dans la cour de chez du Apple Loop? C'est fort probable. Donc, si vous êtes quelqu'un de curieux, vous pouvez aller essayer. Pour l'instant, il y a à peine deux apps qui sont disponibles sur l'Alt Store. Il y a un émulateur de Game Boy et un outil pour faire des copier-coller avancés. Ce deuxième d'ailleurs a l'air de ne pas marcher. L'émulateur Game Boy, là aussi très shady, hein, on va dire, hein, moyennement légal. Donc c'est clair que l'Alt Store joue avec le feu. Surtout qu'effectivement il y a quand même un business model derrière. Bon, c'est pas un business model direct puisque ils demandent de l'aide sur Patreon pour le développement de cette App Store alternatif. Donc, à suivre comment ça va se terminer pour lui. On le saura probablement dans pas trop longtemps. Les robots qui nous font peur, hein ? Vous voyez de qui je veux parler, Boston Dynamics, un de vos articles préférés. Eh bien, ça y est, enfin presque. Les premiers robots ont été envoyés à certaines entreprises. On va dire que c'est une phase de bêta étendue. Je vais vous montrer, et je vais le décrire hein, pour ceux qui sont en audio, le spot publicitaire. C'est donc Spot 1 qui est lancé... attendez, je suis pas sur le bon truc. Voilà. C'est donc le launch de Spot, le robot de Boston Dynamics. Et comme vous le voyez déjà par sa couleur, il est jaune et noir. Il est pour l'instant destiné strictement au monde de l'entreprise, au monde des grands travaux. On connaît les capacités de ce chien sans tête de chez Boston Dynamics, de se stabiliser sur n'importe quel terrain. Ça peut être intéressant sur des chantiers difficiles, puisque c'est un robot qui peut porter une charge utile de 14 kg et embarquer tout un tas d'accessoires qui vont être aussi simples qu'une lampe qui va venir aider des gens qui travaillent dans des endroits scabreux. On le voit ici, on peut lui mettre une espèce de tête d'autruche qui fait bras également pour manipuler des choses. Bref, il est customisable et même le programme est ouvert et certaines entreprises ont commencé à développer des customisations du spot dédiées à leur travail. Par exemple, dans le nucléaire, certainement des choses pour prendre des mesures, etc. Reste que, alors moi, je ne sais pas vous, mais ma réaction en voyant le spot, il y a un truc qu'ils n'ont pas compris ou sur lequel ils jouent, je ne sais pas, c'est que leur robot reste hyper flippant. On a l'impression de voir du Black Mirror en plein. Ça vient effectivement de cette espèce de perfection du mouvement et de la précision de ce robot qui n'a pas de tête, qui ressemble à un mélange entre deux poulets qu'on aurait attachés avec une barre de métal, mais des os de poulet. Bref, il est flippant. Il est flippant, il n'est pas sympathique. Même sur un chantier, je pense qu'il y a ça qui apparaît dans votre dos alors que vous êtes en train de creuser quelque chose. Je pense que vous faites un arrêt cardiaque, en tout cas les premières fois. C'est probablement une adaptation de notre monde. Est-ce qu'on va s'habituer à la présence de ces robots ? Merci beaucoup Pascal pour ton super chat. La question que vous avez probablement tous, c'est combien il va coûter ce robot ? On n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. A priori, Boston Dynamics parle plutôt d'un système de leasing. C'est un robot qui ne sera disponible qu'à la location pour les grandes entreprises. Et ils ont parlé, même si la notion est très floue, que ça sera un peu le prix de location d'une voiture. Prix de location d'une voiture au jour. Ça sera pas un truc, je vais pas en avoir un dans l'atelier pour me filmer tout de suite, même si c'est un de mes rêves, même si c'est un de mes cauchemars. C'est ça que je trouve avec ces espèces de robots, on est vraiment à mi-chemin entre le rêve et le cauchemar, et c'est excito-flippant, hein, c'est le terme que nous avons déposé dans notre émission. On est très partagé, on bascule très vite dans le film d'horreur, d'anticipation d'horreur Terminator, mais en même temps, moi je ne peux que m'émerveiller des progrès qui sont faits sur la robotique du mouvement de nos jours. Et dans votre perception, imaginez qu'une batterie de spot aille sauver des gens après un tremblement de terre ou un tsunami, on les verrait peut-être déjà d'un autre œil. Tout maintenant va se jouer effectivement sur la communication et l'acceptation de notre civilisation occidentale riche, parce qu'il faut préciser que pour l'instant ça sera quand même dans la civilisation occidentale riche, que vont débarquer ces robots dans nos vies, comment on va réagir, est-ce que ça va se terminer avec des coups de pied ou au contraire on aura de l'affection pour eux. J'ai plus confiance dans des exosquelettes. Ça peut être flippant aussi, hein. T'as pas vu Alien. Hein. On termine avec une news qui est strictement pour moi. Non, qui vous intéresse aussi. Je l'ai chopé au dernier moment. YouTube vient d'annoncer une grosse amélioration pour nous, les YouTubeurs, dans la gestion des commentaires. Et vous le savez, vous, en tant que viewer, parfois vous laissez des commentaires et sur notre chaîne aussi, mea culpa, vous posez une question et ça reste sans réponse. Le problème, c'est que souvent, vous avez posé une question, on y a déjà répondu 20 fois. Aujourd'hui, il va y avoir des outils pour les YouTubeurs pour mieux traiter les questions, non pas de manière linéaire, parce que quand on arrive à certaines, certains YouTubeurs, moi, je suis à la limite de ne plus pouvoir lire tous les commentaires. Mais je sais que des YouTubeurs qui sont plus grands que moi, c'est impossible même de lire tous les commentaires. Il y en a trop. Et on n'a pas de bons outils pour classer les commentaires. Là, on aura des outils où on pourra savoir effectivement si la question a déjà été posée, si on a déjà répondu. J'espère qu'on pourra linker des réponses pour répondre aux 100 personnes qui ont posé la même question sans devoir faire. Moi, je fais des copier-coller, mais c'est laborieux. On pourra savoir aussi si un commentaire contient une question ou pas. Ça, c'est super intéressant. C'est que ça va déjà nous permettre de trier entre les questions et des gens qui laissent des commentaires juste de réaction. On va pouvoir, là, ça devient un peu cynique, mais on va dire que c'est le YouTube game. On va pouvoir voir si la personne qui pose la question ou qui met un commentaire est importante ou pas. En gros, est-ce que la personne qui pose une question a elle-même une chaîne YouTube et combien elle a de viewers sur sa chaîne? C'est vrai que c'est humain, hein. Moi, je vais répondre plus facilement à un collègue parce que c'est comme ça aussi, nous, qu'on tisse notre tissu relationnel entre collègues. Donc ça va être une donnée importante. On va savoir aussi si la personne qui nous pose la question est un contributeur ou pas. Et ça, c'est très bien, parce que vous savez que vous pouvez devenir YouTube member. Et c'est vrai que si on peut s'engager à répondre en priorité aux gens qui nous aident à faire notre travail, pour moi, en tout cas, ça peut être super intéressant. Parce que j'ai énormément de questions sur le matos. Aujourd'hui, je réponds en priorité aux gens qui sont sur Tipeee quand ils m'écrivent dans la messagerie Tipeee pour me poser des questions matos. Je m'engage à répondre dans les 15 jours. Et si je pouvais faire la même chose avec ceux qui contribuent en YouTube member, ça serait très intéressant pour nous. Et puis voilà, en gros, ça va être des outils assez intéressants pour nous, mais aussi pour vous, parce que ça va probablement nous inciter à un petit peu plus répondre aux questions. Ségrégation. Ah, tout de suite, on sort les grands mots. Eh oui, mais en même temps, qu'est-ce qui vaut le mieux? Qu'il y ait un petit peu de classification des commentaires ou est-ce qu'on ne réponde pas du tout parce qu'il y a trop de commentaires? Hein? Je pose la question. Et si on veut pas contribuer, je trouve ça pas juste. La vie est pas hyper juste hein, en même temps. Non, mais fondamentalement, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est un peu comme si tu me disais dans un magasin qu'un vendeur, il va plus donner de réponses aux gens qui achètent régulièrement chez lui qu'aux gens qui viennent toujours poser des questions, qui achètent rien. Il y a un moment, voilà, c'est du business hein, aussi. Hein. On va pas faire du cynisme ou pas vous mentir, hein. C'est clair. Mais encore une fois, aujourd'hui, et moi je le vois, je ne peux plus répondre aux commentaires. Si j'avais des outils pour mieux répondre aux commentaires, j'y répondrais peut-être un petit peu plus. Donc quelque part, tout le monde est gagnant à mon avis. C'est un attaché de commentaires virtuel en fait. Disons que ça va nous permettre de mieux trier les commentaires. On passe au sponsor du jour. De jour en jour, puisque notre partenaire officiel du mug, c'est Shadow. Ça tombe très bien dans la rubrique suivante, on va accueillir Raphaël de chez Shadow. Et aujourd'hui, j'ai fait un tirage au sort avec une main innocente. J'ai désigné donc le gagnant qui va gagner un mois de Shadow cette semaine pour pouvoir jouer. Dans la chatroom, Samuel va vous mettre comment jouer. Et sinon, il faut suivre nos autres émissions du lundi au jeudi sur la chaîne secondaire, nos émissions du matin. Je vous dis comment jouer effectivement et gagner un mois de Shadow toutes les semaines. Et le gagnant du jour, en plus, il va être content parce qu'on s'est déjà parlé sur Tipeee, c'est Arnaud. Arnaud, je vais t'envoyer un DM avec le code pour que tu puisses profiter de ton chat pendant un mois et qui nous écrit d'ailleurs, et ça c'est intéressant, il veut un Shadow PC pour travailler sur Adobe Premiere Pro sur Netbook. Donc il nous fera peut-être des retours là-dessus. Bravo à toi et on va donc passer à la rubrique de l'invité. C'est la rubrique Entre quatre œufs. On va accueillir Raphaël de chez Shadow et on va parler de cloud gaming et d'écologie. Tu vois, c'est des œufs, on garde les coquilles hein, chez nous. Hein. On est comme ça. C'est ça. Hein. Toujours l'efficacité. Bonjour à toi, Raphaël.
Bonjour, donc, Jérôme.
Raphaël, vous ne le connaissez pas, mais vous allez tout de suite le reconnaître, puisque le bébé de Raphaël, on l'a ici, c'est le Shadow Ghost. Pour ceux qui connaissent l'univers Shadow, c'est toi qui a été, qui a suivi la création du Shadow Ghost.
Tout à fait, tout à fait. Je me suis occupé du projet, hein. Ça ne veut pas dire que j'ai tout fait dessus.
Au ouais, voilà. Non, c'est pas beaucoup, toi qui a moulé les plastiques.
Qui a fait tout le travail pour nous. Les gens qui travaillent le plus là-dessus aujourd'hui, c'est vraiment les développeurs surtout, hein, qui développent le software qui est à l'intérieur.
Oui, mais il y avait quand même des vraies demandes par rapport aux premières versions des box Shadow. Cette box Ghost, on sait, hein, pour l'instant, elle est en rupture de stock, ça va arriver. Je regarde même pas la chatroom, mais je vois déjà. Je vois. C'est quand les prochaines Shadow Ghost ? Ça arrive. Moi, je sais que ce que j'ai beaucoup apprécié avec cette Shadow Ghost, c'est l'arrivée effectivement du Wi-Fi, du Bluetooth intégré.
Moi aussi.
Oui. C'était quand même des choses. Et en termes de design, c'est un objet sympa qu'on peut poser effectivement sur le bureau, qui est léger, petit, et surtout passif en consommation, pas de ventilo, pas de bruit. Exactement. C'est ce qu'on attendait depuis le début du Shadow.
Je suis bien d'accord.
Et alors,
et je sais que tu aimerais pouvoir l'accrocher derrière ton bureau.
Oui, alors moi, je t'avais dit, je veux un scratch ici pour pouvoir coller derrière mon écran.
Je préfère que tout le monde la voie, donc qu'elle soit sur mon bureau ou sous ma télé, elle est visible pour tout le monde.
C'est
pour
ça que je veux cacher mon Shadow. Mais bon, écoute, hein, peut-être qu'un jour, il y aura un nouveau design pour moi. En deux mots, chez Shadow, tu es programme manager.
Tout à fait.
En quoi ça consiste ?
Programme manager, c'est le terme le plus vague que tu puisses trouver dans une entreprise quasiment aujourd'hui. Initialement, moi, je suis venu pour gérer un projet, un programme qui était la fabrication de la Shadow Ghost et la mise en service de la Shadow Ghost, la mise en production jusqu'à la livraison.
D'accord.
Je suis aussi venu gérer la partie programme qui était remise à niveau de notre service support, la partie SAV des Shadow Box qui existait déjà et améliorer notre performance logistique.
D'accord.
Donc, c'était beaucoup plus là, livrer en 4 jours, être sûr que les box se perdent pas, que les clients râlent pas pendant 6 mois. Je suis arrivé à une époque où les gens vendaient 4 ou 5 mois, les Martiens ou les Runtos
box. Oui, on sait que... on va se rapprocher un tout petit peu de la table, parce que tu vois, la mise au point, il faut que nos têtes soient au même niveau à peu près, et il ne faut pas qu'on soit trop trop loin du micro. Donc, effectivement, on peut le dire, hein, aujourd'hui, les débuts de Shadow, il y a eu des parties un peu rugueuses.
Oui.
On pouvait attendre son Shadow assez longtemps.
Ouais.
Moi, j'ai eu la chance de faire partie des Early Birds, donc j'ai vécu ça de loin.
Décembre 2016, déjà.
Exactement.
Waouh.
Ouais,
j'étais pas encore là, moi, décembre 2016.
Je sais plus quel numéro, mais j'ai la boîte Early Bird.
Il y en a eu 500 qui ont été produits en tout et pour tout, des Early Birds.
Et je sais plus quel numéro je suis, il faudrait que je regarde un jour. Bref. On est là pour parler d'un sujet et surtout vous écoutez aussi hein, la chatroom sur des questions. Mais si vous avez des questions sur les Shadows, gardez-les sur le Shadow général, gardez-les pour la fin de l'émission. Là, on a décidé de parler d'un sujet et je l'avais un peu abordé cette semaine. C'est le cloud gaming dans son ensemble et l'écologie. Puisque hier, si vous avez suivi le live de Shadow, Emmanuel... Emmanuel, un des fondateurs donc de Shadow, a dit un Shadow PC consomme 2 fois moins qu'un PC classique. Alors, je te cuisine un peu, hein, parce que c'est le principe. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous avez des preuves ? Comment ça se passe ?
Alors, je voudrais commencer par répondre à une réponse que j'aime pas du tout, qui était plus compliquée que ça. Mais la réponse, surtout, c'est qu'Emmanuel, il a des convictions. Il est convaincu que Shadow, ça consomme 2 fois moins qu'un ordinateur classique. Et pourquoi il est convaincu ? Parce qu'on a plein de chiffres qui nous poussent à penser ça aujourd'hui.
Ouais.
Moi, j'ai une approche beaucoup plus scientifique, j'ai un monde un peu différent d'Emmanuel. Et c'est quelque chose que je ne vais pas dire avant d'avoir tous les chiffres en place que je puisse mettre devant vous sous vos yeux. Aujourd'hui, je ne les ai pas, on n'a pas tous ces chiffres-là.
Vous n'avez pas tout l'audit
Non, exactement. On n'a jamais fait encore l'analyse de cycle de vie complète du service.
D'accord.
Qui permettrait de pouvoir justement affirmer ça. L'impact éco, l'impact environnemental, l'impact carbone de Shadow par rapport à un PC classique. Par contre, on a des briques.
Ouais, parce que je le vois dans la chatroom, Déjà, prenons point par point. Normalement, oui. Hein, puisque le principe du Shadow PC, c'est que tous les PC sont sur des gros serveurs, des gros data centers. Oui. On sait que les gros data centers, ça consomme énormément d'énergie.
Oui, évidemment. Ouais. Mais les petits PC dans chaque maison consomment aussi énormément d'énergie. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre dans l'approche qu'on doit avoir ici, c'est une approche vraiment rationnelle. C'est le Shadow PC plus une Shadow Ghost, par exemple, qu'est-ce que ça apporte comme service et qu'est-ce que ça remplace ? Ça remplace une tour de gamer. Donc, il faut ensuite comparer sur chacune étape d'une tour de gamer versus Shadow PC plus Shadow Ghost.
Donc, ils font la conso moyenne d'une tour de gamer. Déjà, un chiffre de conso moyenne d'une tour gamer.
Okay. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait. On a déjà fait, donc, en juin 2018, on a fait, l'AFNOR est venu chez nous et a fait des mesures sur un PC gamer équivalent à un Shadow PC. Et on a d'ailleurs publié sur le site de Shadow Ghost qu'on fait des économies en tant qu'utilisateur, au moins en termes de facture d'électricité.
Oui, de facture d'électricité. Ça,
on fait des grosses économies parce qu'en gros, le PC qu'on a testé, on n'a vraiment pas boosté un PC, il était à 284 watts en jeu.
Alors, j'ai monsieur Tropicana, on va rentrer dans le vif des questions, qui dit, et ça c'est une très très bonne question, d'un point de vue écologique, allez-vous revendre votre matériel avec le temps ? On sait que le Shadow PC, ils sont upgradés, on va dire schématiquement tous les deux ans, avec les nouvelles cartes graphiques et tout. Qu'est-ce que vous faites des anciennes cartes graphiques ? Est-ce qu'il y a une grande pile de cartes graphiques ? Voilà.
Alors, c'est la meilleure question, c'est celle-là que tu pouvais faire, félicitations, merci à toi. La raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui, c'est qu'on a annoncé tout récemment, la semaine dernière, qu'on allait travailler sur trois offres différentes. Donc une offre accessible, entrée de gamme, une offre moyenne gamme, une offre haut de gamme.
D'accord, donc ça y est, on va avoir plusieurs Shadow PC possibles.
Voilà,
et une des raisons pour laquelle on est... Tu peux nous donner des dates.
Non, mais je ne suis pas Emmanuel, c'est plus difficile de me cuisiner. Manu, il t'aurait tout dit d'un coup, c'est pas mon cas. Par contre, donc on va faire vraiment un entrée de gamme, un milieu de gamme et un haut de gamme. Et une des raisons qui a motivé cette décision-là, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre matos actuel.
Okay,
et la réponse, c'est que le matos actuel va devenir
l'entrée
de gamme.
C'est top, ça.
C'est top pour les utilisateurs, surtout. Et c'est pas mal pour la planète aussi. Donc, on a une réponse pour qu'est-ce qu'on fait sur la partie recyclage, donc fin de vie de notre produit. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait des boîtes qui utilisent mieux leurs produits en fin de vie que nous avec ce système-là.
D'accord. Alors, par exemple, les premières cartes graphiques.
Les 1070, tout à fait.
Où elles sont ? Qu'est-ce qu'elles font ?
Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on les renvoie à notre fournisseur initial qui va les réutiliser et les revendre à d'autres partenaires.
OK.
Donc, nous, on a des fournisseurs. On a un fournisseur historique, d'ailleurs, qui assemble nos serveurs de manière très, très talentueuse et il les revend ensuite aussi pour d'autres utilisations a posteriori.
Alors là, je vois un problème. Vous jouez avec deux PC sur un Shadow PC sans compter de matériel intermédiaire. Alors, c'est pas faux.
C'est tout à fait
vrai.
Si
je joue sur mon Shadow PC avec un PC, je fais presque une double consommation. Qu'est-ce qu'il en est si je joue avec la box ? Est-ce que, en gros, si je veux avoir une empreinte écologique minimum, toi qui es à l'origine de la box, tu sais combien elle consomme, est-ce qu'il vaut mieux que je joue avec la box ou avec un PC ou un Mac ?
Alors, c'est une très bonne question encore. La bonne réponse, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Aujourd'hui, les mecs qui achètent un Shadow PC, c'est des gens, ou les filles d'ailleurs, qui auraient acheté sinon une tour de gamer. On va partir de ce principe.
D'accord.
La tour de gamer, elle est remplacée par une Shadow Ghost. Donc, la Shadow Ghost consomme en gros entre 5 et 7 watts, peu importe ce que vous fassiez dessus. Donc, sa consommation locale, elle est quasiment négligeable en fait, par rapport à ce que va consommer un PC qui est entre 280 et 500 watts, selon si vous avez plein de LED, du RGB, de la RAM, etc. Donc, il vaut mieux utiliser une Shadow Ghost, évidemment, plutôt qu'un client local comme un MacBook, même si votre MacBook doit tourner aujourd'hui à 50-60 watts, je pense.
Pour la chatroom, toutes les questions qui ne concernent pas l'écologie et le cloud gaming, gardez-les bien et reposez-les en fin d'émission. On répondra d'une manière plus vaste sur toutes vos questions sur Shadow PC.
On essaiera d'y répondre.
Donc, gardez-les bien. Je regarde s'il y a des questions sur l'écologie. Il ne faut pas affirmer sans preuve scientifique qu'un data center fonctionne et consomme 24 sur 24 un PC juste quand il est allumé et on additionne les consommations avec les PC branchés. Ce n'est pas faux.
Data center tourne. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant avec notre service à nous et l'écologie, c'est contrairement par exemple à l'industrie automobile où l'écologie c'est un frein économique, pour nous la partie écologie ça va dans le même sens que notre rentabilité économique. Et c'est pour ça que pour Shadow, ça fait partie de notre business de tous les jours. On doit réduire la consommation des data centers pour réduire notre facture et rendre notre coût par utilisateur plus faible. Donc pour ça, c'est une vraie chance pour nous vraiment d'avoir ça, qu'on va dans le même sens. Et pour répondre à ta question plus en détail, aujourd'hui, on a des mesures. Donc moi, j'ai une facture d'électricité à la fin du mois de mon data center.
Ouais.
Mon data center, je sais exactement combien d'heures ont été utilisées chaque mois. Et je peux estimer à peu près, par rapport à la charge des GPU de mon processeur et de ma carte graphique, si l'utilisateur l'a utilisé en gaming, pour faire du desktop ou pour faire du web streaming. Et donc, avec ce service-là, nous, on a fait des calculs, et sur notre service à Paris, qui est le mieux rempli et qui est le mieux optimisé, on est bien plus rentable que s'il y avait autant d'utilisateurs chez eux, autant d'heures d'utilisation de VM chez les clients individuels.
D'accord. En fait, ce qu'il dit dans la première partie de sa question, c'est vrai que, en fait, aujourd'hui, cet audit, il faudrait que vous en fassiez un, que vous le publiez.
Oui, je suis assez d'accord avec ça.
Raphaël, tu t'engages ici, devant la chatroom, à publier un jour ce rapport d'audit avec des chiffres, un organisme indépendant. Il y a deux autres choses, moi, que tu m'avais dit, Emmanuel aussi m'en avait parlé, moi, qui m'ont intéressé. C'est qu'en fait, pour faire fonctionner Shadow, si je ne me trompe pas, en fait, un Blade fait 5 Shadow. Donc, en gros, la conso globale d'un PC vous permet de servir 5 clients.
Alors, non, c'est un peu différent.
C'est un peu différent, d'accord.
On a pris le problème à l'envers. En fait, on a commencé par la partie fin de vie pour arriver à la partie utilisation, production, exploitation. Et là, on arrive à la partie manufacturing, fabrication. Donc, le cycle de vie d'un produit, c'est quoi ? C'est 3 étapes, enfin 4 étapes. C'est fabrication, manufacturing des composants. Donc extraction, etc. Ensuite, c'est la partie production, exploitation, utilisation. Et ensuite, c'est le cycle la fin de vie. Je ne mets pas le transport là-dedans aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Sur la partie fabrication, manufacturing, on est clairement beaucoup plus écologique qu'une solution équivalente locale. Parce que les composants, je vais vous dire un chiffre au pif, au lieu d'en fabriquer 7, on va en fabriquer 1. Mmh. Donc on va utiliser une carte graphique, un CPU, au lieu d'en fabriquer 7. Vu qu'au cours de la journée, on va le partager. C'est comme si je fabriquais une voiture que je vais louer au cours de la journée à 7 différentes personnes. Mmh. Au lieu de fabriquer une seule voiture, au lieu de fabriquer 7 voitures, j'en aurai une seule. Par contre, a priori, l'utilisation, donc la partie consommation, d'essence, etc., elle restera la même.
Ouais, parce que je vois dans la chatroom, il y a, je pense, une incompréhension. Ils pensent que tous les Shadows, tous les abonnés Shadow, tournent 24 heures sur 24.
Pas du tout.
Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Pas du tout. Donc, on a évidemment des heures où il y a plus de monde sur le Shadow. Donc, évidemment, entre 18h et 22h, hein, j'invente rien, je brise pas un mystère ici. Par contre, comme je viens de le dire, une carte graphique va être partagée au cours de sa vie, en gros, entre, je sais pas, je vais dire 2 et 10 utilisateurs. Mmh. Ça veut vraiment dire qu'on limite beaucoup, beaucoup la fabrication et donc la production de ces composants, et qui est vraiment un gros problème vu que ça utilise beaucoup de matériaux rares. Donc sur la partie manufacturing, franchement, je peux vous le dire sans aucun problème, on est beaucoup, beaucoup plus rentable et beaucoup plus écolo qu'un PC, que des PC locaux à la maison.
Ouais, et alors, je crois que c'est Émilie Marie qui l'a dit. C'est vrai que l'écologie, ça ne se résume pas à la consommation d'un ordinateur. Mm-hmm. Moi, il y a quelque chose que je trouve intéressant. Là encore, hein, vous n'avez pas des chiffres, il n'y a pas d'audit, mais dans un data center, on peut utiliser des composants plus gros que sur un PC qu'on vend à un particulier. Et du coup, ça repose moins sur l'utilisation de métaux rares. Et on sait que c'est un élément très polluant, et aussi, on va dire, la manière dont sont récoltés ces métaux rares pose aussi d'autres problèmes, même que l'écologie. Et donc, en gros, un data center repose sur des composants plus gros, on n'a pas besoin de miniaturiser, plus faciles à faire, et qui sont conçus pour durer plus longtemps, pour être plus costaud, parce que c'est beaucoup plus sollicité. Donc ça sera aussi... Enfin, je me permets de donner des indications pour l'audit.
Je
pense qu'un audit uniquement basé sur la consommation sera qu'une partie, finalement, de l'empreinte carbone du cloud gaming.
Je pense que tu as raison. C'est beaucoup plus dur à mettre des chiffres là-dessus.
Ouais. Mais déjà, montrer aussi les choses. Je pense que, de toute façon, Shadow, il y a un côté très irrationnel au produit. Toi, tu es dedans. C'est pas facile de faire comprendre aux gens, de leur faire accepter de lâcher une tour et de mettre dans un data center. Et justement, on vous remercie beaucoup la chatroom pour ces questions autour de l'écologie du cloud gaming. On va passer à la dernière partie de l'émission. Et là, vous allez pouvoir poser des questions beaucoup plus vastes sur le Shadow PC. Si vous en avez sur l'écologie, hein, auquel on n'a pas répondu, vous pourrez aussi. Et c'est donc la dernière partie de l'émission. Ça va être les cornfac. Et on se retrouve donc, je n'ai pas changé d'invité, pour les cornfac. Il n'y a pas de questions platinium. Les questions platinium, c'est nos plus hauts contributeurs qui sont favorisés. Ça, c'est complètement dégueulasse, mais ils sont favorisés.
J'ai entendu le débat à l'instant.
Voilà, le débat sur le... Mais c'est vrai, on pourrait l'avoir. Et justement, on va essayer de prendre en priorité, de profiter vraiment de la présence de Raphaël ce matin. Si vous avez des questions autour des Shadow PC, autre que quand c'est ce qu'elle arrive la Ghost, on est là pour y répondre. As-tu vu l'iPhone 2020? Oui, c'est vraiment des rumeurs, hein, Black Gamer. Oui, j'ai vu effectivement des prototypes. Le retour du stockage, c'est pour quand?
C'est une bonne question. Je ne sais pas.
Vous ne savez pas?
Non, je ne sais pas.
Le plus vite possible. Vous savez, en tout cas, vous savez que c'est une des plus grosses demandes.
Je sais que c'est la plus grosse demande. On sait que c'est la plus grosse demande. Donc, si ça n'arrive pas encore, croyez bien que c'est nous les premiers attristés par ce sujet.
Pourquoi il n'y a pas de double sortie HDMI sur la Shadow Ghost?
Ah, c'est une très bonne question et ça revient à une décision que j'ai prise en décembre 2017. C'est qu'à l'époque, le Shadow Box avait déjà deux sorties, mais les clients étaient frustrés et ne comprenaient pas pourquoi, vu que ça ne fonctionnait pas.
Ça ne fonctionnait pas.
Et je n'ai pas voulu prendre le risque qu'on ait encore un problème auprès du plus grand public avec deux sorties.
Ouais.
Et on voulait faire un produit simple avec un HDMI.
Alors, celle-là, je vais y répondre, parce que je connais un peu certaines choses. Pourquoi il n'y a pas d'essai gratuit pour tester? C'est que c'est un petit peu compliqué. Il faut bien comprendre comment fonctionne le Shadow PC. C'est pas juste vous attribuer une place parmi tous les autres et puis on squeeze un maximum de monde. En fait, l'accès à un Shadow PC, c'est ouvrir une vraie session. En gros, tu as ta carte graphique dédiée, etc. Et donc, ça demande des manipulations côté serveur. En gros, quand vous ouvrez, ça ne s'ouvre pas avec juste une ligne de code.
Non, tout à fait.
Donc, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous n'y réfléchissez pas, mais aujourd'hui, c'est très compliqué et impossible de dire, allez, c'est gratuit, vous testez pendant 10 jours, et puis, parce que vous voulez que les gens qui testent aient l'expérience complète.
Tout à fait.
Vous pourriez très bien dire, bon, allez, on va en squeezer 200 au lieu d'en squeezer 5 sur cette Blade, mais les gens auraient une expérience dégradée du Shadow PC, donc l'essai gratuit se terminerait en essai pourri.
Tout
donc, ça n'aurait que très peu d'intérêt.
Très bonne réponse.
Alors, merde, j'ai perdu. Reposez vos questions parce que ça a défilé et j'ai perdu un petit peu les questions. Jérôme, pourquoi macOS, notamment pour un usage photo-vidéo? Une vidéo sur pourquoi? Oui, peut-être, je ferai peut-être ça, Galic. Autre question, le développement pour l'Amérique du Nord, du Shadow. Shadow, vous l'avez lancé aux États-Unis, ça en est où?
Aujourd'hui, on couvre 80% de la population aux États-Unis.
D'accord.
Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, il reste quelques États, notamment la Floride, mais ce n'est pas la question ici, qui sont pas couverts. Et c'est des gros efforts à faire économiquement pour y aller s'installer. Donc, on prend un peu de temps pour le faire, mais ça viendra.
Pour faire ça bien. Quelles sont les dernières nouveautés de Shadow? Alors ça, j'y réponds. Il y a aujourd'hui un truc que je trouve génial sur le site Shadow, c'est que vous avez mis en fait des lignes de progression. Les gens de chez Shadow ont un but aujourd'hui, c'est que le Shadow est un véritable PC. Et je le dis, même si ça ne plaira pas à tes boss, je trouvais d'ailleurs le nom de votre programme avant absolument génial, c'était « It's a fucking PC ». Et la première priorité des gens de chez Shadow aujourd'hui, c'est qu'il y a encore quelques angles à arrondir pour qu'on ne voit plus la différence, en tout cas dans les usages, entre un Shadow PC et un Shadow normal. Il y avait des choses comme la gestion du micro. Et donc, ils ont mis des timelines et vous voyez tous les objectifs qu'ils ont pour arriver à cette première partie du programme, It's a fucking PC. Moi, je continuerai à dire It's a fucking PC parce que j'adore. Je veux un t-shirt d'ailleurs, It's a fucking PC.
C'est noté.
Et ensuite, vous passerez à une deuxième phase. Et ça, moi, j'en suis très convaincu. Un Shadow PC peut faire des choses qu'un PC ne saura pas faire, justement par ses propriétés sur le cloud. Mmh. Donc, si vous voulez maintenant suivre au jour le jour les évolutions du Shadow, vous pouvez le faire sur leur site. Hum à Lyon, vous en avez entendu parler, c'est des gens...
Il y a 4 ou 5 mois, oui, ouais. j'ai vu des démons.
C'est des Lyonnais qui lancent... On va dire un Shadow Pro,
ouais.
Pas sur l'orientation gamer, mais plutôt orientation business.
Ouais.
Est-ce que vous avez été en contact avec eux? Est-ce que bienveillant?
Je ne pense pas. Ça sera toujours bienveillant, très sincèrement. Surtout que c'est une petite équipe encore et on sera toujours bienveillant. Mais non, on n'est pas rentré en contact avec eux. Et je crois qu'ils font effectivement du virtual desktop ou alors ils font du GPU, ils prêtent de la puissance
de calcul. disons-le, hein, ceux qui s'y connaissent, de faire du virtual PC, c'est pas nouveau, ça existe depuis le début de l'informatique. La grosse nouveauté de Shadow, ça a été un, de l'orienter vers le gaming et avoir des prix accessibles pour le grand public. Parce que la virtualisation, ça coûtait très cher. Ouais. Et ce que va faire Hume, en fait, puisque la virtualisation professionnelle, ça existe depuis longtemps, c'est essayer en tout cas d'offrir des prix à la Shadow pour un usage professionnel.
Je leur souhaite bon courage, vraiment, parce que je travaille avec beaucoup de partenaires B2B, hein, personnellement. Et on travaille avec des écoles, notamment, pour essayer de les équiper en Shadow, qui veulent renouveler leur parc. Donc, vraiment, on travaille dessus, nous aussi.
Moi, je sais que je connais des gens qui ont deux entreprises qui prennent des Shadow, parce que ce qu'il y a de très pratique, c'est que surtout quand tu as une entreprise à modulaire, où tu as plus ou moins de gens, tu ouvres des sessions Shadow, tu les fermes économiquement, c'est hyper intéressant
pour les freelances, j'ai beaucoup de demandes pour des freelances aussi. On demande tout le temps. Pour ouvrir des bars gaming, on a énormément de demandes de gens qui veulent faire du pro avec Shadow.
Alors, à quand Shadow Quantique ? Alors, on va dire non et oui en même temps.
C'est déjà quantique, non, Shadow ? Non. Après, depuis que je suis arrivé à Shadow, un des trucs qu'on dit, c'est qu'on peut faire n'importe quoi en termes de configuration, donc le Shadow Ultra, et peut-être qu'on le fera un jour. D'ailleurs, le haut de gamme qu'on va lancer là est très proche du Shadow Ultra. Hein.
Ouais. Alors, une question qui revient très très souvent, et je pense que j'inviterai quelqu'un d'autre de chez Shadow, parce que c'est vraiment un truc récurrent. Shadow, la confidentialité, la sécurité, c'est un vaste débat. On comprend, enfin moi personnellement, je comprends tout à fait les angoisses des gens d'avoir son PC loin. On a l'impression que son PC sur le bureau, comme physiquement on peut le toucher, les données, elles ne peuvent pas s'envoler. Ce qui, quand il réfléchit un peu, est... Désolé de le dire, complètement con. Ouais. Quelque part, et moi, j'ai été convaincu maintenant, je fais plus confiance aux équipes de Shadow pour protéger les données de mon PC qu'à moi-même.
Bien sûr, moi j'ai le même principe. J'ai l'impression que votre réseau, et c'est mon approche aussi, est beaucoup moins protégé que notre réseau, même si notre réseau est probablement plus intéressant pour des gens qui voudraient hacker les données. Mais bon.
Après, la confidentialité, ça peut être autre chose, parce que les gens se disent, mon PC, il n'est pas chez moi. Mm-hmm. Shadow, est-ce qu'il regarde ce que je fais ? Est-ce qu'il est au courant ?
Vous connaissez tous la réponse est non, évidemment, vu que c'est vraiment, on perdrait tout à faire ça en fait, donc on le fera jamais.
C'est un peu la réponse que je vous avais donnée par rapport à Apple et la protection de la vie privée. Apple s'érige en maintenant en chevalier blanc de protection de la vie privée. Quand t'es un chevalier blanc, t'as intérêt à avoir le slip propre. Si on lève des lièvres chez Apple, ils perdent tout. Mais vraiment tout.
Tout à fait.
Demain, s'il y a un scandale, qu'on s'aperçoit que vous avez espionné le contenu d'un Shadow d'un particulier, que vous les publiez, ou vous faites de l'argent avec, ou vous vendez les données à des boîtes, vous êtes mort.
Et je veux rajouter une pièce dans ce débat, et qui pour moi est l'argument total, c'est qu'on n'a aucun moyen de monétiser vos données. En fait. Nous, on ne sait pas faire, ce n'est pas notre business, on n'est pas Google, on n'est pas Amazon, et en fait, on n'en ferait rien. Voilà, c'est ça le truc. Vraiment, on n'a aucun moyen de les revendre, on ne sait pas faire, quoi.
Ouais, si tu veux, je peux te donner des adresses. Ah parce bon, que bon, les données de gamers... Non, mais parlons franc. Ouais. Et on sait que, par exemple, Stadia, ça va être son business model.
Oui, tout à fait.
Stadia ne va pas être gratuit, contrairement à ce que vous croyez. Stadia va servir des données des gamers pour rentabiliser Stadia dans sa version gratuite. Parce qu'on sait qu'en 2020, il va y avoir une version gratuite. Les données gamers, c'est des données qui, économiquement, valent beaucoup d'argent. Et je pense... Là, je ne veux pas m'avancer, mais je me dis, ça ne doit pas être facile pour le board Blade Shadow de résister à la tentation de l'argent facile qui pourrait être fait en revendant même pas des données confidentielles, mais même des stats d'usage des gamers, parce que ça vaut de l'or. Hein.
Ouais, tu as sûrement raison. Je suis sûrement un peu naïf là-dessus.
Et ça pourrait être un business model. Je sais que c'est pas facile, ça coûte cher à faire Shadow PC. Ça pourrait être un business model si un jour vous lanciez dans le gratuit.
Ouais.
Voilà, ça serait un peu gratuit compte donné.
Mais quoi qu'il en soit, dans ce cas-là, je pense qu'on est quand même lié par le RGPD à de manière générale demander des opt-in. Est-ce que vous pouvez prendre vos données?
De toute façon, vous auriez des problèmes en France pour le faire. Ouais.
Voilà, ça serait pas un peu trop compliqué. Le choix, hein.
Ouais. Ça serait un peu compliqué. Non, mais justement, on n'est pas naïf. Hein. Moi, je suis pas naïf. Je sais que les données.
Moi, je suis plus naïf.
PC, valent beaucoup d'argent. Peut-on étalonner l'écran sur Shadow ?
Waouh, c'est trop technique pour moi. C'est pour toi, ça. Je ne
sais
pas. Ouais,
alors, on n'y est pas encore. Je vais être franc, hein. On n'y est pas encore. Aujourd'hui, moi, je traite certaines de mes photos sur Shadow. Je ne trouve pas que les réglages de couleurs soient suffisamment fiables, on va dire, pour un photographe professionnel. Pour moi, ça me va. Ça me va parce que maintenant, on a le choix entre deux réglages Shadow. Après, ça va toujours dépendre du type d'écran que vous utilisez. Ça s'est stabilisé. À une époque, je t'aurais franchement répondu non. Mais ça s'est stabilisé. Shadow, c'est le big data, l'étude des comportements. Oui, mais en même temps, en tout cas, Shadow, à l'heure actuelle, ce n'est pas votre business model.
Non,
c'est un business model qui est basé sur le paiement pour avoir un Shadow PC.
Tout ce qui était dit plus haut, c'est qu'on monitore l'usage, effectivement, des cartes graphiques pour être sûr que les gens minent pas avec Shadow, ce qui est pas conforme à nos...
Il y a des interdictions, ça, vous les monitorez. Mais ça ne veut pas dire que vous regardez ce que les gens font.
Non.
C'est juste que vous avez une alerte s'ils font du minage avec leur carte graphique.
Exactement. Si votre carte graphique reste à 100% pendant plus de 12 heures, on pense qu'il y a un problème.
On veut un test gratuit d'abord à 29,95€. C'est cher. Bah, j'ai une bonne nouvelle. Tu peux gagner un mois gratuit sur Shadow. Sur le mug, toutes les semaines, on va mettre un mois gratuit de Shadow en jeu. Vous faites souvent des opérations, mais c'est... Alors, vous aviez fait une opération, c'était 5€ 5 jours.
Ouais, c'était il y a très longtemps.
Ouais, et ça avait tellement cartonné que je crois que ça a un peu échaudé les gens de data center.
Ce qui est extrêmement dur pour nous, c'est de dimensionner combien il faut de place en fait, pour lancer ce genre d'offre et pas être au bout de 2 jours bloqué. En fait. Et par contre, je vais répondre quelque chose que je pense qu'on peut dire de manière assez simple. De manière générale, en France, si tu achètes un produit en ligne, tu as 14 jours pour te rétracter. Donc, tu peux essayer aujourd'hui Shadow comme ça.
Voilà.
Voilà. Enfin, faut pas trop le dire. Mais c'est,
faut
si,
pas
c'est
trop
la
le
vie,
dire, donc
la
tu l'as pas dit. Tu vas rentrer, tu vas te prendre une claque. Mais qu'est-ce que t'as dit ? Ça va, il y a personne qui nous écoute. C'est bon, voilà, Naotech, tout le monde s'en fout.
C'est la loi, en tout cas.
Voilà, c'est la loi. Et je précise aussi, tu l'as dit, donc je peux le dire, il va y avoir des offres. On peut imaginer, toi, tu dis rien, c'est moi qui dis, on peut imaginer que dans un effet de gamme Shadow, il y a des Shadows où on va être plus proche de 10-15€. On va avoir des Shadows après qui seront à prix équivalent. Puis après, on aura des Shadows Ultra à des prix complètement fous, mais qui seront rigolos. Donc, ça va devenir plus facile, parce que si tu dépenses entre 10 et 15€, bon, bah, si ça ne te va pas ou que ça ne marche pas bien chez toi, tu n'as pas perdu 30€. Quoi. Donc, voilà, dans le temps, ça va devenir plus intéressant.
Tout à fait. D'ailleurs, par rapport à ces offres-là, les tests commencent bientôt. On va tester à grande échelle avec pas mal d'utilisateurs. On a beaucoup
d'utilisateurs. Il faut que j'appelle Jean pour que mes gars puissent tester. Là. Je veux du code bêta.
Je ne sais pas si c'est trop tard encore, mais on va lancer des gros tests.
Bon, j'en parlerai avec Jean. Combien de Shadow tournent actuellement en France ?
On a en gros 65 000 utilisateurs aujourd'hui.
Bien.
Et en France, je ne sais plus. Je ne souvenais plus le mix entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis. Plus la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Je ne connais plus.
Non, je ne filme pas avec l'iPhone 11 Pro. On est filmé actuellement par le Nikon Z6. Je l'ai écrit d'ailleurs. C'est le Nikon Z6. Je l'ai mis un peu plus transparent pour pas que ça gêne les gens. Mais on vous en parlera bientôt. On est effectivement en partenariat avec Nikon. On vous expliquera tout ça bientôt. Il y a eu beaucoup de questions Linux. Mais bon, il reste 3 minutes. Alors, est-ce que... Toi, il y a des spécialistes chez vous de Linux.
La plupart de nos développeurs sont fans de Linux.
On peut aujourd'hui faire tourner Linux sur un Shadow.
Il y a une application Linux. Faire tourner Linux dans le Shadow.
Ça, je sais pas.
C'est un Windows. Non,
c'est Windows.
Et l'application Linux, elle existe. Je ne l'ai jamais utilisée. Et je t'avoue que je ne sais pas trop à quel niveau elle en est aujourd'hui.
N'hésite pas, Edmondson, à poser des questions directement aux gens de chez Shadow.
Sur Discord, notamment. Ça aide beaucoup aussi.
Sur Discord, ouais. C'est des gens qui travaillent là-dessus. Moi, j'avoue que je ne suis pas du tout spécialiste Linux non plus. Le stockage supplémentaire est sur la roadmap. Oui, le stockage supplémentaire est sur la roadmap. C'est con, du coup, ce monitoring perso pour... La photogrammétrie de Shadow,
serait
intéressant. Ça veut dire que je peux utiliser... Je ne sais pas ce que c'est que la... Si tu as fait une faute de frappe ou si c'est un mot savant que je ne connais pas.
Je pense que ça doit passer la nuit à faire des rendus et peut-être qu'à un moment, ça va s'arrêter. Oui.
Bah, économiquement, vous, ça serait votre mort.
Ce n'est pas notre objectif.
Si tout le monde faisait tourner ses Shadows,
et
pour le coup, ça consommait beaucoup.
Je reviens au principe qui est de dire, votre Shadow, on a besoin de le partager à d'autres personnes quand vous ne l'utilisez pas. Donc, on ne peut pas avoir des gens qui 24-24 l'utilisent, même si vous avez le droit de le faire si vous jouez 40 heures d'affilée. Voilà. Mais les tâches passives, ce n'est pas le top non pour nous.
Est-ce que vous allez lancer un chat de feu?
C'est la blague. Très bonne blague, historique. T'es le premier à la faire, félicitations.
Ah, c'est quoi le chat de feu?
Non. Chat de feu, voilà.
Ah, oh le chat, oh putain. Oh là, bravo, mais j'ai pas le cerveau encore assez réveillé là.
La réponse est non.
Fortnite en 244 frames par seconde, c'est possible?
Pas sur Shadow, non.
Non.
144 FPS. Je pense qu'on est les seuls à faire du 144. GeForce Now fait du 120, peut-être du 144 en fait, mais on en fait de manière consistante.
Peut-on jouer à Minecraft avec le Shadow? Bah, carrément.
Oui.
Carrément. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas bien Shadow, Shadow, c'est un vrai PC. En tout cas, ça tend, on va dire, à 95%, c'est un vrai PC.
Oui, vraiment.
Dans le sens où vous pourrez faire tourner tous les jeux que vous achetez, vous tournerez. Il y a eu des incompatibilités historiques. Moi, je me souviens de l'année où je pouvais jouer à Overwatch parce que l'écran devenait noir. C'était à cause de l'anti-cheat de la souris. Tout c'est des problèmes résolus. Ouais. Aujourd'hui, vous avez encore des incompatibilités avec certains jeux
Crois qu'on a eu sur un jeu qui s'appelle, je sais plus, Ring of Elysium, on a eu des petits problèmes. Mais systématiquement, on contacte les entreprises, ça se règle assez rapidement.
D'accord. Donc, non, les seuls problèmes qui arrivent aujourd'hui avec certains jeux, c'est sur des programmes anti-cheat. Parce que souvent... Le cheat en jeu vidéo consiste à faire tourner des machines virtuelles qui jouent à ta place.
Exactement.
Donc, les jeux, quand ils voient une machine virtuelle... En fait, vous êtes encore un petit peu détecté comme une machine virtuelle et c'est un de vos buts, c'est que vous soyez détecté comme un PC normal.
Tout à fait.
On m'avait pris le temps de m'expliquer comment vous aviez résolu le problème de la souris qui était détectée comme une souris virtuelle et maintenant qui est détectée comme une vraie souris hardware quand vous jouez à n'importe quoi. C'était super intéressant, quoi. C'est un... combien est-ce que ça coûte? Eh bien, je te propose d'aller sur le site shadow.tech et si jamais tu craques, et ça c'est important, utilise le code promo NowTech et tu auras moins 10% sur ta facture. Hein, bien placé.
C'est moins 10 euros. Hein.
J'ai dit beau. Ah, moins 10 euros, pardon.
Sur le premier mois, sur la facture.
J'ai essayé de faire une négo en direct. J'ai essayé de vous avoir un petit prix là. Vous ne pourrez pas dire que je n'ai pas essayé. Hein. Merci Samuel de rappeler le code promo. Est-ce que je peux rapatrier des données à distance sur un HDD branché sur le boîtier Shadow?
Oui, tout à fait. En gros, le boîtier Shadow, il a 4 ports USB. On va
y aller doucement. On va tester l'autofocus sur un objet. Là, il va avoir du mal. Il a beaucoup d'éléments quand même à détecter.
Et donc nous, on forward aujourd'hui par défaut les deux ports USB 3 qui sont les bleus. On les envoie dans ta machine virtuelle, dans les deux sens. Donc, tu pourras écrire depuis ton HDD sur ton Shadow et inversement.
Samuel, on va rester un petit peu plus longtemps parce que j'aimerais profiter du fait qu'on ait Raphaël. Notamment, enfin, je le vois, il y a beaucoup de questions sur le Shadow. Donc, on va en profiter un petit peu. Shadow et Wacom, à quand la compatibilité? Ah, les tablettes Wacom ne sont pas compatibles?
J'en ai fait marcher une il n'y a pas si longtemps ça chez Studio M à côté, mais par contre les niveaux de pression, je ne suis pas sûr que ce soit reconnu effectivement.
D'accord.
En fait, nous, on a un principe de base, c'est qu'on envoie le périphérique USB dans la machine, après il y a une diversité infinie et on n'a pas tout testé.
D'accord.
Et c'est quand même des trucs très très niches sur lesquels je ne peux pas mettre du développeur trop de temps à travailler dessus. Donc je ne peux rien te promettre là-dessus, je suis désolé.
Alors, est-ce que Shadow se développe mieux à l'étranger qu'en France?
Alors, je vais répondre à trois questions en même temps. On a 6 data centers, on en a 4 aux États-Unis et 2 en Europe, 1 en France et 1 en Hollande, étrangement. Et moi, je dirais que non, la France, là, on a la plus grosse traction et qu'on a la plus grosse brand recognition. C'est là qu'on est le plus connu, en fait, finalement. Donc, la France reste quand même le fer de lance de l'entreprise. Et ensuite, est-ce qu'on a peur de Stadia? C'était une question qui va
venir
10 fois. Pas du tout, pas du tout, vraiment pas. On est ravis, au contraire, ça va faire de la pub, mais vraiment, ça va faire de la
pub. C'est dingue, ça. Stadia a lancé beaucoup d'intérêt sur le cloud gaming.
Exactement.
Et j'entends plein de gens, quand on parle de Stadia, dire « Non, non, mais Shadow PC, c'est mieux. » Donc, en fait, ça va dans l'autre sens.
Et les gens de chez Google même disent, quand ils font des études de marché en France, ils disent « Ouais, mais Shadow, ce que vous avez fait, c'est incroyable. » Et ça, c'est vrai, c'est factuel. C'est incroyable. On a été surpris de voir qu'ils étaient presque plus connus que nous. Donc, ils ont été vraiment bluffés par leur étude de marché aussi. Et Stadia, c'est quelques jeux disponibles. Shadow, c'est les 50 000 jeux PC disponibles.
En fait, moi, c'est ce que j'explique. C'est pas du tout la même chose. Un Shadow, même si c'est très orienté gaming, j'en profite pour répondre à Oleg, c'est pas que les tablettes graphiques sont marginales. Mais Shadow, pour l'instant, dans votre com et dans votre design produit, vous allez vers les gamers. Donc, en fait, la tablette graphique pour les gamers, c'est niche. Après, si votre cible est télégraphique, c'est sûr que vous...
Ce serait la priorité du développement.
Mais voilà.
Parler de Stadia.
Moi, Stadia, le truc, c'est que Stadia, vous n'achèterez que des jeux qui sont développés pour Stadia. Alors, même si la conversion d'un jeu PC en Stadia est relativement simple, il faudra quand même une conversion.
Ouais.
Et les jeux que tu auras achetés sur Stadia ne tourneront que sur Stadia. Shadow PC, moi, les jeux que j'avais achetés quand j'avais des PC physiques tournent sur mon Shadow.
Exactement.
Et si un jour je décide d'abandonner Shadow parce que vous faites de la merde, ça peut arriver, et que je me reprends un PC physique, j'aurai encore tous mes jeux.
Tout à fait.
Donc c'est la grosse différence.
Donc la question Stadia, c'est un peu ma question préférée. C'est très très simple de répondre et vraiment. Et surtout, le truc que moi je dis le plus, c'est si un jour vous avez Stadia et vous voulez jouer à un jeu qui n'est pas supporté par Stadia, vous allez acheter un Shadow et vous n'aurez plus besoin de Stadia. Mmh. Voilà, la réponse est très simple.
Est-ce qu'il y aura des promos Shadow ou Black Friday ? Toi, tu ne dois pas savoir.
Je
ne
sais pas. Je me mouille pas autant que Manu, moi, sur ces trucs-là. Donc, non.
Manu, vous aurez dit, ouais, on aura des Shadow à 1 euro.
Je ne sais pas. Pas très haute.
En fait, si vous connaissez Emmanuel, notre cher Emmanuel, Emmanuel, en fait, dit toujours la vérité, mais il dit la vérité du futur. Et il a beaucoup d'avance.
Oui, voilà. Beaucoup d'avance.
C'est comme ça qu'il faut décrypter Manu. 30 balles pour 65 000 utilisateurs, on est à 2 millions. Non, c'est pas du bénef. Tu sais pas faire ton calcul.
C'est des chiffres d'affaires.
Non, ça, c'est du chiffre. 2 millions de chiffres d'affaires. Pour que tu puisses calculer le bénef, il faudrait savoir combien ça coûte.
Exactement.
De faire tourner tout ça, les salaires, les data centers, etc. Et là, tu verrais le bénef. Donc, c'est pas du bénef. Le Shadow était à 23 euros. Je pense que... Alors, moi, je m'avance. Hein, l'équipe marketing vont dire, mais virez-moi ce mec. Mais je suis pas embauché, donc je peux dire plein de conneries. Mais je pense que si cette année, vous lancez une gamme de prix Shadow, ouais, avec des Shadow, j'espère, je le dis, j'espère que ça sera en dessous de 15 euros, votre offre d'entrée. Vous n'avez pas besoin de faire un Black Friday. Je pense, et je rebondis sur ce qu'a dit Marion dans le mug mercredi. Marion a parlé de vous, parce que Marion, tu sais qu'on paye un Shadow, et j'y tiens, parce que je veux qu'on ait une expérience de gens qui payent.
Tout à fait.
Parce que quelqu'un, moi j'ai un Shadow effectivement que je ne paye pas, mais je veux, si, parce que je veux garder ma capacité à râler contre vous s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je pense que râler quand on paye, c'est quand même beaucoup plus facile que quand on ne paye pas. Bref.
J'aime beaucoup cette intégrité.
Le truc, c'est que Marion, elle n'utilise que très ponctuellement son Shadow pour jouer à Divinity, quand on joue en couple à Divinity.
Original Sin
2, qu'on adore.
Je joue aussi en couple à Divinity.
Et ben voilà. Et donc, Marion n'allume son Shadow que pour ces sessions-là, qui doivent nous arriver 2-3 fois par mois, un grand max. Donc aujourd'hui, c'est vrai que payer le prix fort du Shadow pour un jeu qui n'a pas besoin non plus des hauteurs graphiques d'un FPS... La latence dans Divinity, on n'en a rien à foutre.
Bien sûr.
Et donc, ça l'intéresse carrément, une offre entre 10 et 15 euros. Quoi,
bien sûr. Pour
un PC ponctuel, justement. PC de gamer ponctuel.
Je pense que ça a du sens aussi.
Ouais.
Avant Shadow, je n'ai jamais eu plus qu'une 950, une GTX 950.
Ouais.
Une carte graphique, et ça marchait très bien. Hein.
Moi, j'en suis à un âge où la carte graphique, je m'en fous. Je veux que mon jeu tourne. Je n'ai pas le temps. J'ai eu mon époque Mongalais. J'ai eu mon époque où je connaissais toutes les cartes graphiques du marché. Aujourd'hui, je veux un truc, j'allume, je lance mon jeu, je ne veux pas avoir perdu plus de 5 minutes de ma vie. Quoi.
Ouais.
Sinon, je m'impatiente, je vais faire autre chose. En fait, j'ai un usage de mon PC console. Mais je n'aime pas les consoles, c'est mon paradoxe. Les consoles,
un paradoxe.
Ah ouais, non, moi, les consoles, j'y arrive pas.
Quoi, c'est
pas
le clavier et la souris qui te manquent
Ouais, et puis le type de jeu auquel je joue sur console, c'est merdique. Je suis plus Wargame, je suis plus jeu de rôle.
Quoi que je joue à Divinity à la manette. Hein.
Oui,
moi je préfère à la manette.
Il est sorti pour la Switch d'ailleurs.
Ça m'étonne pas.
Ouais, génial. Il vient de sortir pour la Switch Divinity Original 2. Bref, 15 euros je prends direct, tu vois. Là je te fais une étude de marché en direct sur la chatroom. On pourrait imaginer des offres heures par mois. Bah, là, on retombe sur le problème que c'est compliqué d'ouvrir et de fermer des sessions.
Ouais. Non, c'est soit on bascule sur un business model comme ça, soit on le fait pas.
Ouais.
On le fait pas, on le fera pas.
Stadia invente le gaming sans les inconvénients de la console.
Ouais.
Ouais, on en reparlera. Tu vois, c'est pas parce que vous êtes mon partenaire. J'ai commandé le pack pionnier Stadia.
Edition.
Et je ferai une vidéo Stadia, Shadow PC, où est-ce qu'on en est, les différences,
bien sûr.
Qualités. Je suis open des chakras.
Et hier, je me suis abonné, moi, au Microsoft xCloud, la bêta, pour tester Microsoft xCloud sur mon téléphone.
Est-ce que l'offre actuelle Shadow est rentable pour l'entreprise ou travaille à perte? T'as peut-être pas le droit de dire ça.
Non, je n'en parlerai pas.
Je n'ai qu'une seule chose à dire. Suivez le Twitter d'Emmanuel, vous le trouverez. C'est le seul moyen d'avoir des leaks et des infos.
C'est vrai, parce qu'il ne peut pas s'auto-flageller s'il dit des bêtises.
Ouais, il pourrait. Ouais. Voilà. Les offres heures par mois, ça m'avait beaucoup fait rire, un tweet qu'il avait fait. où il avait expliqué sur les coûts, etc. Puis derrière, il avait fait un autre... Mais je voudrais rassurer nos aimables actionnaires, nous sommes une entreprise... Ouais, beaucoup. Ah oui, c'est tellement Emmanuel.
Bah, il a même fait en show de news, il a montré un deck qui est présenté aux actionnaires, un PowerPoint d'actionnaires en show de news un soir.
Ouais, il est très fort, hein, quand même. Moi, je pense que, ouais, il a...
Il voit quelque chose qu'on voit
c'est
pas.
C'est le futur de la présentation. Steve Jobs a marqué avec ses keynotes, Emmanuel va marquer avec ses annonces. Oui, la partie OnePlus 7T est passée, c'était dans les news, Romain, mais tu pourras écouter le replay.
D'ailleurs, j'ai compris qu'il n'était pas forcément mieux que le OnePlus 7 Pro. C'est ça qui est étrange. Bon, c'est...
Oui, mais d'abord, c'est pas les mêmes prix.
D'accord.
Voilà. Et puis, OnePlus 7T Pro aussi, peut-être.
Ouais, bah, 7 Pro T ou 7T Pro
Ok. Ouais, voilà, bon, j'en reparlerai.
Il a balancé, nickel. Je vais attendre un peu.
Est-ce qu'on peut faire de la photo? Mais c'est quoi de la photogrammétrie?
C'est du bâtiment 3D, c'est de la modélisation 3D pour dans le bâtiment.
Est-ce qu'on peut faire avec MetaShape? Est-ce qu'on peut faire ça sur un Shadow?
Oui, si MetaShape est une application Windows et que les prérogatives c'est 12 Go de RAM, une carte graphique GTX 1080 et un processeur à 3 GHz, oui.
Ouais.
Donc oui, en gros, toute la 3D marche très bien sur Shadow en général. Les 12 Go de RAM peuvent être un peu limitants si vous faites beaucoup de travail.
Alors, qui est le patron de Shadow et qui sont les actionnaires? Alors, je peux répondre. Alors, le CEO, vous venez de changer?
Ouais.
On peut le dire?
J'imagine que oui.
Ouais.
Oh, je pense que oui.
J'espère que je... Voilà. Emmanuel reste dans la boîte, hein, mais justement, on va pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Au niveau des actionnaires, pour l'instant, vous êtes une société privée. Vous n'êtes pas à la bourse.
Non.
Vous êtes récemment rentré dans le Next 40, qui est le nouvel indice boursier sur, Dieu sait si je déteste ce terme, mais on va l'utiliser quand même, des licornes françaises. Donc, les startups, vous n'êtes plus une startup pour moi, mais
non.
En tout cas, des entreprises tech les plus prometteuses à l'international. Donc, bravo à vous. Hein.
Merci.
Voilà, est-ce que ça il faudrait peut-être poser la question à quelqu'un d'autre, j'inviterai d'autres personnes. Est-ce qu'une un actionnariat, enfin une entrée en bourse est prévue? Je sais que beaucoup de gens, et moi le premier, depuis que je vous connais, j'essaie d'investir. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient devenir actionnaires.
Non, bon, moi je suis actionnaire, j'ai cette chance, mais on a les plus connus de nos investisseurs sont par exemple Pierre Cochecomorizet ou Michael de Price Minister et Michael Benabou de Vente Privée, par exemple, le plus connu.
Hello, moi je fais des rendus 3D avec Octane sur Shadow et ça marche très bien. Bah, tu vois, on a un témoignage en direct dans la chatroom.
Oui, et je sais que le montage aussi, ça se fait bien sur Shadow.
Alors, petit jeu, si tu veux retrouver Emmanuel, tu vas sur mon Twitter et tu regardes qui je suis, tu le trouveras peut-être. Le jeu à la
c'est
con,
vrai.
Comment tu as perdu une demi-journée?
Sinon, il s'appelle Ilnarion.
Voilà, c'est Ilnarion sur Twitter. La réalité virtuelle est plutôt... Ah, ça c'est... Je me souviens, au début de Shadow, c'était dans vos prios. Puis c'est vrai que la réalité virtuelle, le marché s'est un peu tassé.
Tout à fait.
C'est encore dans le pipe chez vous, mais c'est plus dans les prios, on peut le dire.
C'est dans le pipe, mais c'est des équipes qui sont un petit peu séparées du développement.
D'accord.
Qui travailleraient là-dessus, si on travaille là-dessus, je ne sais pas.
Ouais. Est-ce qu'on peut résider en Afrique et avoir un Shadow?
Tu peux, mais c'est une très mauvaise idée.
Ouais.
Moi, quand je vais en Chine, j'utilise de la distance, mais c'est juste pour aller sur le bureau et ça rame beaucoup.
Ouais,
très loin du data center et l'information ne peut pas aller plus vite que la lumière, en fait.
Pourquoi? C'est qu'il faut qu'il y ait des data centers dans le pays où tu utilises. C'est pour ça que pour l'instant, il y a des problèmes avec... Enfin, les dom-toms, ce n'est pas possible.
Voilà.
Il faut que physiquement, il y ait des serveurs sur le territoire où tu es. Et pour l'instant, l'Afrique n'est pas...
Même si on reçoit beaucoup de gens, les dom-toms qui nous disent que ça marche très bien, moi, j'ai du mal à y croire. Mais bon, ça leur suffit. En fait, ils sont habitués à des pings de 300 millisecondes.
Ouais,
donc, au final,
peut-être,
ils sont moins choqués que nous,
ouais.
Qui sommes un peu pourri gâtés là-dessus. Hein.
La réalité virtuelle et la réalité augmentée ne prendront jamais. Ça se discute. Pourquoi pas un data center en Belgique? Vous êtes lancé en Belgique?
Alors, ce qu'on va faire en Belgique, c'est mieux qu'un data center. On est lancé en Belgique depuis
sur
décembre 2017.
Exactement,
le 1er octobre, on va lancer avec Proximus, un très gros opérateur belge.
Alors, je crois que Proximus n'est pas très apprécié par les Belges.
Mais de manière générale, en fait, les gens n'aiment pas les opérateurs téléphoniques.
De manière générale,
donc,
c'est
vrai. SFR n'est pas apprécié non plus, Orange n'est pas apprécié.
La prochaine fois que vous avez de la latence sur votre Shadow, c'est ce que je dis toujours, d'abord insultez votre provider, après vous insultez Shadow.
pas parce sympa que généralement,
non,
oui.
Non, mais honnêtement, moi, de mon expérience, et je la donne depuis très longtemps sur Shadow, on va dire 80% de mes problèmes de latence viennent de mon provider. Et dans toute l'histoire que j'ai eue avec Shadow, il reste 20% de problèmes que j'ai eu avec le Shadow. Mais n'oubliez pas que j'étais dans la phase bêta. Hein, et je compte dans ces 20% la phase bêta. Proximus, c'est l'opérateur historique belge. D'accord.
Merci. Et on sera dans la box Proximus, donc on sera intégré au projet de programme de qualité ça, à côté, avec ça, Netflix, avec des énormes programmes. Quoi.
Vous voulez pas le faire avec un opérateur français?
Mais peut-être que
et
ça leur donnera confiance.
On peut vous dire avec quel ne pas le faire.
Peut-être. Le problème qu'on a eu avec les Français, c'est qu'ils sont peut-être plus frileux aussi. Voilà. Et Proximus a été très courageux, on les remercie beaucoup. Et enfin, ils ont dit ok, on y va. Je pense qu'ils ont de l'avance, ils sont visionnaires aussi, comme Manu.
Ouais, eh ben, écoute, très bien. Bravo pour Proximus. Proximus, c'est la mort. Ouais, bon, tu vois, il n'y a pas que des fans. Mais bon, c'est bien, au moins, ils sont ouverts à...
Mais ils vont tirer une fibre aussi dédiée entre nos data centers et la Belgique ça, pour servir mieux aussi tous les clients Proximus Belgique. Ouais.
Deutsche Telekom,
c'est pas prévu, en tout cas. Enfin, en vrai, on travaille avec beaucoup de gens, mais j'en parlerai pas avant qu'on soit sur le point d'appuyer sur le bouton. Et là, c'est le 1er octobre.
Ouais. Allez, il est quand même 9h15. On ne va pas abuser de la patience de Samuel. Samuel, c'est le mec qui arrête l'émission.
Merci
que moi je pourrais continuer pendant des heures et des heures. Écoute Raphaël, je te remercie beaucoup d'être venu, de t'être prêté au jeu. C'est pas toujours des questions faciles. Pour la conclusion sur écologie et cloud gaming, vous avez des convictions, ouais. Maintenant on attend des preuves, mm-hmm. Hein. Une étude, des chiffres, c'est ça qu'on attend. Merci aussi d'avoir répondu à toutes vos questions. On est désolé, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, ça défile quand même assez vite. Effectivement, Shadow et la 5G, ça c'est aussi un territoire qui va être super intéressant. Beaucoup d'ailleurs de constructeurs de smartphones ont utilisé Shadow pour faire leur démo 5G. Oui. J'en entends beaucoup parler de ça. Donc c'est intéressant.
On est les meilleurs amis de tous les démos 5G.
Ouais, voilà, évidemment. Exactement. Merci beaucoup Raphaël, tu reviens quand tu veux. Si t'as rien à foutre un vendredi et que t'as envie de te lever tôt, bah t'ouvre la porte, tu viens parler avec nous.
Merci Laurent.
On remercie énormément la chatroom, on remercie tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent en replay. Je sais que c'est un petit peu le Bronx dans les playlists replay audio. Dès que j'ai le temps, je vais mettre de l'ordre là-dedans, mais on est au courant. On est au courant, il nous faut juste un petit peu de temps. Nous aussi, on va faire des calendriers, des dossiers en une progression roadmap, chez Nowtech, les priorités. On vous retrouve lundi pour un nouveau mug. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, passez un super bon week-end. Je sais qu'il y a toujours des petits problèmes de décalage son. Chez certains, ça s'est amélioré. Je vais faire des nouveaux tests. J'aurais dû vous faire le test ce matin, mais il me manque un câble. J'ai commandé ce câble. Dès que j'aurai ce câble, je vais vous faire des nouveaux tests. Je vais pas m'avancer. On progresse. On progresse sur le sujet. On vous fait de gros bisous à tous. Bon week-end et à lundi. Ciao tout le monde.
Merci à tous. Au revoir.
On se quitte avec le générique de fin.